Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, par ailleurs animateur de l'émission On n'est pas du monde à Radio VM et Radio Galilée. Il réfléchit aux achats en ligne qui se sont multipliés à la faveur de la pandémie. Selon lui, le gain en efficacité, en économie et en sécurité risque d'être effacé par la perte de relations humaines et de sens. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et évoque la chute de l'Empire Bombardier qui est l'objet d'un livre paru chez Fides, sous la plume du journaliste économique Daniel Bordelot. L'ouvrage intitulé « Bombardier, la chute d'un géant » est appelé à devenir une référence dans les écoles de gestion. Bonjour Louis.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors écoutez, on va parler. On a déjà souvent parlé de Bombardier, mais là, il y a un ouvrage qui vient clore ou sceller toutes les nouvelles.
Oui, et je dirais que c'est pas par masochisme. C'est vrai que c'était un de nos fleurons. Elle n'est plus qu'une entreprise qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Donc, on va essayer d'en tirer quand même, à tout malheur, peut-être bonne chose, essayer d'en tirer une théorie tout au moins.
Ou des enseignements.
Des enseignements et qui peut-être vont servir plus tard dans des écoles de gestion pour dire à des futurs entrepreneurs, ben écoutez, il y a des choses à ne pas faire.
Mais alors, on va commencer d'abord avec quelques nouvelles brèves.
Fidèle à nos habitudes, donc j'ai relevé trois nouvelles à saveur économique de la semaine dernière. La première, le Canadien Pacifique, qui avait anciennement son siège à la gare Windsor, mais qui est maintenant basé à Calgary, a conclu une entente pour acquérir un important concurrent américain, la Kansas City Southern, dans le but de créer tôt ou tard un réseau reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, les deux sociétés ont annoncé dimanche que le Canadien Pacifique ferait l'acquisition de la ferme états-unienne pour 25 milliards US. Donc, ça correspond à environ 31 milliards de dollars canadiens.
Ouais.
C'est pas des peanuts, ça, comme on dit. Donc, selon le président et chef de la direction du Canadien Pacifique, la transaction se veut un facteur de rapprochement pour toute l'Amérique du Nord. Elle permettra d'intégrer les chaînes d'approvisionnement du continent, ce qui est vrai. Une priorité qui s'impose depuis la signature du nouvel accord de libre-échange entre les trois pays. Donc, selon le communiqué de presse qui a été émis, la nouvelle société issue de la fusion exploitera plus de 32 100 km de voies ferrées et générera des revenus totaux d'environ 11 milliards de dollars canadiens, ça sur la base des rapports annuels de l'an dernier. Donc, en fait, je dirais que c'est un gros pari sur la reprise économique du continent. Si la pandémie peut se terminer, la nouvelle société, elle, pense que la reprise pourrait être durable.
Tous les spécialistes disent que la reprise, surtout avec le plan Biden, va faire que le PIB états-unien va grimper au plafond.
On ose espérer que l'effet Trump sera chose du passé. Vous savez, un président américain qui décide tout d'un coup de mettre des droits d'imposition sur vos produits, tout au moins sur les trois produits, on a un accord de libre-échange quand même.
Quoique les démocrates sont très protectionnistes.
Oui, exactement. Et on pense aussi que la production va redevenir plus régionale. On l'a dit, la mondialisation a du plomb dans l'aile, puis on le sait, les relations avec la Chine continuent à se détériorer. Donc, elle pense qu'elle va pouvoir tirer profit de ça. Un peu comme son concurrent, le Canadien National, qui lui, grâce à Illinois Central, se rend aussi jusqu'au Mexique.
Donc Deuxième nouvelle, du côté de l'Amérique du Nord, nous aimer
un peu en Turquie. Oui, en Turquie, d'où l'importance d'avoir une banque centrale indépendante. Là-bas, c'est remis en question, ça, parce que le président de la banque centrale a été limogé. Donc, c'est un financier qui était respecté, un monsieur Nassi Apkal. Il a été remplacé dans la nuit de vendredi à samedi par un proche du président Erdogan là-bas. Donc, le nouveau président, Saab Kavcıoğlu, lui, il voudrait que les taux d'intérêt soient le plus bas possible pour continuer à stimuler l'économie.
Parce qu'elle va mal là-bas.
Elle va mal, il y a de l'inflation aussi. Donc, mais chose bizarre aussi, le nouveau gouverneur, il est aussi éditorialiste au quotidien complotiste et antisémite Yeni Safak. Donc, c'est un peu bizarre, ça. Et il faut dire aussi, c'est la quatrième fois en moins de 20 mois que la Banque centrale turque change de gouverneur. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment ça va mal. Je regardais hier, la bourse d'Istanbul a suspendu plusieurs de ses cotations parce qu'il n'y a personne pour acheter. La monnaie nationale pique du nez. Donc, le nouvel ami du président Erdogan qui se retrouve à la tête de la Banque centrale, il a déjà été à la tête aussi d'une banque publique entre 2005 et 2015. Donc, on peut lui dire ben, il y a une expérience, mais son expérience, ça a surtout été pour contourner les sanctions américaines à destination de l'Iran. Donc, cette banque-là a été accusée par les États-Unis d'avoir mis en place un système qui a permis à l'Iran d'accéder à plus de 20 milliards de dollars. Donc, il risque de se retrouver en cours tout au moins aux États-Unis. Bon, il ne se rendra pas probablement. Mais pourquoi tout ça? Ben, l'ancien gouverneur avait décidé de relever les taux d'intérêt à 19%, et parce que il estime que l'inflation fait 15% cette année. Donc il était respecté. La monnaie turque s'était appréciée d'environ 18% au cours des derniers mois, ce qui est bien parce que quand vous importez, ben ça coûte moins cher. Mais tout ça, ça a été effacé hier, donc en une journée. Ça ne s'améliore pas non plus. Donc, d'où l'importance d'avoir une banque centrale indépendante et stable. Donc,
en tout cas, écoutez, Recep Tayyip Erdogan, qui dirige la Turquie, est extrêmement efficace. Il arrive en 24 heures à détricoter des mois de labeur. Il faut le faire. C'est agir vite, bien, et de façon chirurgicale. Hein.
Oui,
troisième nouvelle, Louis Bouchard.
Oui, ben, une note un peu plus légère. On a appris samedi qu'il y a un groupe d'analystes fraîchement embauché par Goldman Sachs, vous savez, la banque d'affaires. Ils avaient préparé une présentation très officielle où ils se plaignent des longues heures puis du stress au travail. Et ils suggéraient une semaine de seulement 80 heures quand même. Wow. Donc, ils ont élaboré un document, un peu comme ils font pour leurs clients. Et donc, c'est 11 pages. Ils font des beaux chiffres, des graphiques. Ils ont fait une enquête auprès de 13 jeunes salariés qui viennent d'être engagés cette année. Et ceux-ci affirment travailler en moyenne 98 heures par semaine. Je vous rappelle, là, 40 heures, c'est une grosse semaine. 80 heures, c'est deux grosses semaines.
C'est plus de deux grosses semaines.
Oui, exactement. Et plus, donc, ils disent que leur santé mentale et physique a considérablement décliné. 77% d'entre eux estiment avoir été victimes d'abus professionnels. Il y en a même un qui a ajouté, je savais qu'on aurait un horaire de 9 à 5, mais je ne savais pas que 9 à 5 le matin, quand même.
Donc, 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin.
Oui, exactement.
Oui, d'accord.
Donc, pour rectifier la situation, les jeunes banquiers proposent une semaine de seulement 80 heures maximum.
Ça serait une bonne recette pour Bombardier, là, qu'on va aborder tout de suite,
oui,
Louis Bouchard, non?
Des semaines de 98 heures.
Oui, ça pourrait redresser la compagnie.
Exactement. Ce qui nous amène au sujet de la semaine, vous l'avez dit, le livre de Daniel Bordelot, qui fait environ 200 pages et qui est tout frais sorti de chez Fides. Soit dit en passant, Fides a acquis les éditions La Presse maintenant. Mm-hmm. Donc, ça nous arrive, je dirais, avec une analyse solide des déboires de Bombardier, firme que Bordelot a suivi durant ses années comme journaliste économique à Radio-Canada. Comme il le dit lui-même, il n'a jamais été actionnaire, puis il n'a aucun compte personnel à régler avec la direction de cette entreprise-là. Moi non plus, j'ai rien à régler avec la direction de l'entreprise, mais je l'ai connu de l'intérieur, surtout la division transport, et je fus un actionnaire, mais je peux vous dire, ça fut un très mauvais investissement. Mais bon, Bordelot cherche à comprendre ce qui s'est passé, puis moi j'ose espérer que ça va servir, comme je l'ai dit, à d'autres gestionnaires pour éviter de refaire les erreurs et d'en tirer des leçons. Donc,
allons-y.
Bon, il faut dire, souvenez-vous, les dernières années, on est allé recruter Alain Bellemare, l'entreprise devait quêter régulièrement auprès des gouvernements, le salaire des dirigeants était dans les millions de dollars, puis la situation s'améliorerait pas, donc ça faisait en sorte une espèce de désastre en termes de relations publiques. Quand les gens pensent à Bombardier, on se dit, mais quand est-ce que ça va finir, tout ça? Mais le livre commence avec certains rappels historiques qui sont bons de rappeler. le peu de déneigement qui était fait par le ministère de la Voirie dans les années 30 et 40, ce qui a mené aussi à la mort suite à une appendicite d'un des fils de Joseph-Armand Bombardier fin 1934, parce qu'il n'avait pas pu se rendre à l'hôpital, les routes étaient pas déneigées, donc comment dit-on, la nécessité est la mère de l'invention, ben ça fait en sorte que 2 ans plus tard, il va déposer un brevet pour sa nouvelle invention qu'il avait appelée l'autoneige, mais qui prendra encore 3 ans à mettre au point. Et dans les années 50-60, ça commence à débouler un peu pour l'entreprise, mais le fondateur va décéder d'un cancer et c'est son beau-fils, Laurent Beaudoin, qui va prendre la direction à l'âge de 28 ans. Imaginez-vous à l'époque. Bon, Beaudoin, il avait épousé Claire, une des filles du fondateur. Il prend la direction de l'entreprise, puis il développe l'entreprise. Il sait compter, c'est un comptable agréé. Et donc, dans les fin des années 60, début des années 70, ça va bien pour Bombardier. Mais il rencontre en 73 deux pépins. L'hiver en 73 a été exceptionnellement doux, puis les ventes ont reculé de manière importante, mais surtout, le prix du pétrole s'est mis à exploser.
Ben, il y a eu le premier choc, oui.
Exactement. Donc, pour survivre, la firme se dit il faut se diversifier dans un secteur qui serait plus stable. Et ils vont choisir la construction ferroviaire. Bon, ça sera pas tout le temps facile, mais il y a une certaine logique derrière tout ça. C'est du montage, là, que vous fassiez des petites motoneiges ou des motos marines ou des rames de métro, ça reste du montage. Donc, on peut dire, ils restent dans leur créneau et ils vont avoir le contrat pour le prolongement de la ligne verte à Montréal pour 76 et ça va leur donner la chance, je dirais, d'apprendre.
Pardonnez-moi, Louis Bouchard, mais ils se mettent dans les avions aussi, non?
Oui, exactement. Mais à partir de 1986, le monsieur Beaudoin, il recommence, mais cette fois-ci dans le secteur de l'aéronautique parce que on lui propose d'acheter Canadair. Et au cours des années qui vont suivre, il va acheter d'autres entreprises dans ce secteur-là. Donc, souvent, c'était des entreprises étatiques dont les gouvernements cherchaient à se défaire et à privatiser. Mais pourquoi pas si cela semblait donner des bons résultats? Donc, à l'époque, là, imaginez-vous, il y a les produits récréatifs, il y a le transport ferroviaire et il y a l'aéronautique. Donc, c'est 3 entreprises, en fait.
Ouais.
Et Bordelot, il identifie dans son livre une série de problèmes qui ont fait chuter ce géant.
Le livre s'intitule « Bombardier, la chute d'un géant » paru chez Fides. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, oui?
Facilement lisible. Donc, ce qu'il dit, c'est que le premier problème, pour ainsi dire, c'est la faiblesse systématique du contrôle de la qualité, surtout à la division des transports. Bon, un avion, quand vous le construisez, il faut pas qu'il s'écrase, mais régulièrement, la division des transports avait des problèmes. Alstom en a aussi, les concurrents. Moi, je me souviens d'une visite d'un directeur d'une usine allemande qui me disait que, par exemple, ces soudeurs, c'est des vrais divas, puis il faut les traiter ainsi. Un des problèmes, c'est que en Ontario, par exemple, pour les appels d'offres de la ville de Toronto, la TTC, l'équivalent de la STM montréalaise, on faisait habituellement le travail à Kingston ou à Thunder Bay, puis un jour, on a décidé, on va envoyer ça au Mexique. Ça coûte moins cher. Puis l'assemblage final va être fait à Thunder Bay. Puis une fois livrés les tramways à Toronto, on découvre que les soudures ont été mal faites. Imaginez, essayer de rectifier quand votre tramway il est tout construit, d'essayer de rectifier ça. Et ça fait en sorte qu'à la fin, les relations avec les autorités torontoises sont devenues pourries. Bombardier a dû payer quand même, lorsque vous livrez un produit en retard et dont les spécifications sont pas très bonnes. Donc, au lieu de faire de l'argent sur ces contrats-là, ils en perdaient
finalement.
Bon, Bombardier a essayé d'introduire des programmes de contrôle de la qualité, entre autres, je me souviens, moi, Six Sigma, mais qui, en fait, était plus approprié à la production de milliers d'ampoules d'éclairage qu'à du montage industriel.
Attendez, je comprends pas ça. Bombardier ne faisait pas des ampoules. Pourquoi ils ont un programme pour vérifier
les ampoules? Pour la petite histoire, c'est General Electric l'avait installé aussi et donc, ils se disaient, si c'est bon pour General Electric, ça doit être bon pour nous aussi.
Ah d'accord, aussi simple que ça.
Aussi, la valse des présidents, après le départ de Raymond Royer, qui était le président historique, moi, je me souviens, il y avait M. Leblanc, il y a eu Lortie, il y a eu Navarri, il y a eu toute une série, c'est jamais bon de... Et en fait, la division transport a eu besoin d'une bonne reprise en main. Bon, autre erreur identifiée par Bordelot, ça a été de se retrouver coincé entre deux géant dans l'aéronautique entre Boeing et Airbus.
Oui.
Un petit joueur peut tirer son épingle du jeu, mais il doit frapper juste. Par exemple, Embraer au Brésil réussit aussi à tirer. Et donc, on a choisi, par exemple, vous vous souvenez, on en a parlé de ça, la série C.
C'était un bon avion, ça.
Un bon avion, une technologie de pointe inégalée, mais il était trop petit. Dès le début, ils ont choisi un 100 à 130 places. Il aurait fallu, en fait, un avion de 150 à 180 places, qui était un créneau qui était inexistant chez les deux avionneurs.
Pardonnez-moi, Lou Bouchard, mais je vous interromps une seconde. Il nous reste encore cinq minutes et demie. Mais c'est bien facile de faire ce procès de ce qui ne s'est pas passé chez Bombardier à rebours. On peut très bien dire que vous auriez dû dire si, vous auriez dû faire ça. Et sur le coup, est-ce qu'il le savait vraiment qu'il fallait prendre un avion de 150 à 180 places?
On le pense, parce que les études avaient été faites et que Bombardier avait choisi un créneau juste un petit peu plus petit pour ne pas faire réagir les deux grands concurrents.
Voilà.
Et ils se sont dit, éventuellement, quand on aura un avion à 100 places, on pourra l'allonger, pour ainsi dire. Et c'est ce qu'a fait Boeing. Quand ils ont vu arriver Bombardier, ils se sont dit, éventuellement, ils vont nous faire le coup, ils vont nous faire un avion à 150 et 180 places. Alors, eux, ils ont fait une version allongée du 737 MAX. Et vous savez comment ça se termine.
Non, ça marche plutôt mal, oui.
Ça marche plutôt mal. Parce que
est-ce qu'il y a d'autres problèmes aussi identifiés dans la saga Bombardier?
Oui, la gouvernance et la famille. Ça, ça revenait régulièrement. Comme de nombreuses entreprises, Bombardier avait deux sortes d'actions. Celle de la famille, qui ont 10 fois plus de nombre de votes que les actions ordinaires. Donc, avec seulement environ 13% des actions, la famille contrôlait la firme au complet. Bon, personnellement, je trouvais toujours que quand ils prennent des bonnes décisions, on peut dire, ben écoutez, il n'y a pas de problème, là. Mais le problème, c'est lorsque la situation se corse un peu. Et c'est là où les mauvaises décisions vont se prendre. Il y a eu un tel moment qui est arrivé en décembre 2002. Ça n'allait plus, la profitabilité n'était plus là. La famille va recruter un gestionnaire compétent puis reconnu en la personne de Paul Tellier. Il avait été grand mandarin à Ottawa et puis il avait mené à bien la privatisation du CN. Donc, il est arrivé dans la firme, il a analysé la situation. Puis là, il a recommandé de se départir en premier de la division produits récréatifs. Là, souvenez-vous, c'est le cœur historique.
C'était le fondement.
Donc, la famille a décidé, OK, il faut le faire. Et il était allé chercher du capital supplémentaire. Mais surtout, il a voulu changer la priorité de l'entreprise. Pendant très longtemps, M. Beaudoin, lui, il voulait prendre l'expansion tout azimut au détriment de la profitabilité. Puis en 2004, Tellier, à peine 2 ans après être rentré là, ben, il s'est fait dire par la famille, tu dois partir. Puis la famille a repris ses droits. Laurent Beaudoin est revenu avec son fils Pierre. Autre problème qu'il identifie, une composition d'un conseil d'administration où il y a trop de membres de la famille qui sont là et pas assez d'ingénieurs.
Dont vous parlez, c'est Daniel Bordelot qui a écrit « Bombardier, la chute d'un géant » paru chez Fides, 200 pages. Oui, donc un autre problème encore?
Oui, un autre, mais disons que Bordelot dit que c'est l'erreur fondamentale de Bombardier. Et je crois que c'est une analyse qui est assez juste. Ça a été de croire qu'une firme avec environ 20 milliards de dollars états-uniens, ce qui nous semble peut-être beaucoup, mais comparé à des concurrents, c'est peu. Une telle firme pourrait être un joueur important dans deux secteurs, le secteur ferroviaire et le secteur aéronautique. Il aurait fallu choisir, et c'est ce que la famille avait refusé de faire.
Elle a voulu garder trop d'œufs dans deux paniers.
Exactement. Et ça fait en sorte que, l'Empire a chuté. Un des seuls géants qu'on avait, une belle multinationale. Il reste encore les produits récréatifs qui vont très bien. Vous savez, il y avait aussi, on était un peu fiers en tant que Québécois. Moi, je me souviens quand j'allais à Berlin, vous étiez à la gare centrale, là-bas, la Hauptbahnhof, puis vous regardiez en l'air, il y avait une grande publicité pour Bombardier Transportation en anglais, bien qu'en français puis en allemand, ça se dit Transport. Mais la firme avait choisi en anglais.
C'est pas étonnant.
Non.
Moi, je me souviens, j'avais été à la gare de Francfort, mais pas pour Bombardier, évidemment, je me sentais aux États-Unis.
Oui,
tout
beaucoup,
était en anglais. On entendait les gens parler allemand, évidemment, mais tout était en anglais sur les placards, sur la publicité.
C'est une maladie qu'ils ont là-bas. Et, mais tout ça pour dire qu'il y avait un peu de nous autres là-dedans, indirectement, parce que Bombardier, faut le rappeler, il était accro aux subventions, crédits d'impôt de toutes sortes, les aides indirectes par la société pour l'expansion des exportations. Mais ça, ça dérange moins dans la mesure où c'est probablement le prix à payer pour avoir une industrie de haut de gamme comme celle-là.
Oui, oui.
Si vous regardez Embraer au Brésil aussi, ça bouffe la subvention, parce qu'un des problèmes, c'est que Airbus et Boeing, eux, ont des programmes militaires et qui se font subventionner indirectement.
Évidemment, ça c'est payant, oui.
Exactement. Donc, le livre se termine, je dirais, sur un exercice de prospective, l'avenir de ce qui reste. Il y a encore 12 000 employés au lieu de 70 000 auparavant. Éric Martel, l'ancien président d'Hydro-Québec, est retourné à ses anciennes amours, pour ainsi dire. Donc, mais c'est plus l'entreprise que c'était, c'est un créneau maintenant. Et c'est pourquoi que je pense que le livre de Bordeleau est appelé à devenir, je dirais, la référence pour savoir ce qui s'est passé. Et on l'étudiera sûrement dans les écoles de gestion à l'avenir pour essayer d'éviter certaines erreurs qui ont été faites. Et comme vous le disiez, la grande erreur, ne pas choisir le créneau qu'on voulait. Ça a trop traîné longtemps et ça a probablement entraîné la chute de l'entreprise.
Daniel Bordeleau, Bombardier, la chute d'un géant, paru chez Fides. Merci beaucoup, Louis Bouchard. À dans une semaine.
Comme toujours.
À venir sur les ondes de la radio VM, la dématérialisation des échanges et la déshumanisation du commerce. On vous revient après la pause publicitaire.